VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manila Kiza en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique. Vous écoutez la première édition de la soirée. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique du 24 mars 2017. D'abord les principaux titres. Vote à haut risque, congrès américain pour réformer le système de santé initié par Barack Obama. RDC, la CPI ordonne le versement de $250 symboliques comme réparation à chacune des 297 victimes des crimes reprochés à Germain Katanga. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a retrouvé sa liberté aujourd'hui après 6 ans de détention. Mise en place d'une commission vérité et réconciliation en Gambie pour faire la lumière sur 22 ans de règne de Yahya Jammeh. Et à suivre après le journal L'économie et les sports. Je vous le disais dans les titres, journée cruciale à Washington. Les Républicains à l'épreuve pour abroger et remplacer Obamacare. La Chambre des représentants doit voter ce soir la réforme du système de santé introduite par Donald Trump. Mais un groupe d'élus républicains s'oppose toujours à ce projet de loi malgré la pression de la Maison-Blanche. Claire Morin-Gibourg.
La Chambre des représentants vote cet après-midi pour remplacer ce qui est surnommé Obamacare, le système de santé mis en place il y a 7 ans. Ce matin à Washington, on ignorait toujours si le texte allait recueillir une majorité des voix ou si Donald Trump allait subir une cinglante défaite. L'opposition démocrate est radicalement contre et une trentaine de républicains modérés et conservateurs sont contre ce texte. Le président américain, après d'innombrables réunions, a décidé hier soir de mettre fin aux négociations. Il a lancé un ultimatum à son propre camp en disant « approuver la réforme ou laisser Obamacare en place ». Donald Trump parie sur le fait que les républicains n'oseront pas faire échouer la première grande loi de son mandat. Ses détracteurs estiment que le président sous-estime l'impact de la réforme, car 14 millions de personnes risquent de perdre leur assurance santé dès l'année prochaine. Selon un sondage Quinnipiac, 56% des Américains s'opposent au plan républicain, 17% l'approuvent et 26% restent indécis.
Le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, s'entretient à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump pour discuter justement de la problématique du vote. Au-delà de l'Atlantique, de la Méditerranée, première réparation pour crimes de guerre aux victimes de Katanga en RDC, la Cour pénale internationale ordonne de verser pour la première fois $250 symboliques à chacune des 297 victimes d'un massacre dans un village en 2003. Les détails avec Arzuma Kampaoré.
Selon le juge Marc Perrin de Brichambault, l'objectif de cet acte symbolique est de soulager les préjudices subis par les victimes d'une manière significative. Le Congolais Germain Katanga, déjà condamné en 2014 à 12 années de prison pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, devra personnellement réparer le préjudice physique, matériel et psychologique estimé à plus de $3,75 millions en payant $1 million. C'est par liaison vidéo que M. Katanga a suivi l'audience à Kinshasa depuis sa prison de Makala. Quant au préjudice psychologique engendré par la perte d'un être cher, la valeur monétaire a été fixée à $3,752,620, soit un montant 4 fois inférieur à celui déterminé par les victimes. De premières compensations symboliques avaient été attribuées dans une autre affaire, celle de Thomas Lubanga, condamné en 2012 à 14 ans d'emprisonnement pour enrôlement d'enfants soldats. Une décision finale se fait toujours attendre sur des réparations monétaires.
Arzuma Kampaoré dans le Sahel, précisément au Mali. Au moins 10 personnes ont été tuées mercredi dans des violences dans le centre du pays. Un conflit oppose des peuls à des chasseurs traditionnels Bambara. Des violences similaires avaient fait au moins 20 morts et des centaines de déplacés dans la même région en février dernier. L'otage français, enlevé hier dans l'est du Tchad, se trouve au Soudan voisin. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministre tchadien de la Sécurité, Ahma Mahama Bachir. La victime qui travaille pour une compagnie minière a été kidnappée dans la région d'Abéché. La Gambie annonce la création d'une commission vérité et réconciliation. Elle est chargée d'enquêter sur des présumés crimes commis par l'ancien régime de Yahya Jammeh. Cette décision répond aux demandes de familles des victimes et à des organisations de défense des droits humains. Abdulrahman Dia.
L'ancien président Yahya Jammeh a négocié sa sortie grâce aux chefs d'État guinéens et mauritaniens qui l'ont aidé à partir en exil en Guinée équatoriale avec tous ses biens. Mais l'ancien numéro 1 gambien qui a dirigé le pays pendant 22 ans n'est pas sorti de l'auberge. Le ministre de la Justice, Aboubacar Tambédou, a promis que les premières audiences publiques auront lieu avant la fin de l'année. L'ancien chef des services de renseignement, Yankuba Badji, et l'ex-ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko, ont déjà été arrêtés. En plus des crimes de sang présumés, le ministre gambien de la Justice a indiqué que la gestion financière de l'ancien régime sera aussi examinée. Yahya Jammeh est accusé d'avoir pillé les caisses de l'État avant de s'exiler. L'annonce de la création de cette commission intervient alors que l'actuel président Adama Barrow avait promis que son gouvernement ne se livrerait pas à une chasse aux sorcières.
Procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les avocats commis d'office de l'ex-première dame ont décidé de boycotter la phase finale du procès prévu à partir de lundi. Elle est jugée à Abidjan pour crime contre l'humanité. Ces avocats réclament une nouvelle fois une reprise totale du procès et dénoncent notamment l'absence de documents dans le dossier d'accusation et le remplacement d'un assesseur pour un autre en cours de procédure. En Sierra Leone, la police et Amnesty International ont annoncé la mort d'un étudiant au cours d'une manifestation violemment dispersée hier dans le sud du pays. Des étudiants demandaient la reprise des cours et depuis plusieurs mois, des enseignants de l'université d'Ondjala sont en grève et réclament le paiement des salaires et de pensions de retraite. Lancement samedi d'une campagne massive de vaccination contre la polio dans 13 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Plus de 116 millions d'enfants de moins de 5 ans seront simultanément vaccinés la semaine prochaine. Ce programme, l'un des plus grands jamais réalisés en Afrique, vise à faire disparaître le dernier bastion de la poliomyélite sur ce continent, selon un communiqué de l'OMS. Au Cameroun, une trentaine de personnes ont comparu hier dans 3 procès devant le tribunal militaire et sont poursuivies notamment pour terrorisme pour leur implication présumée dans la contestation menée par la majorité anglophone. Et au Zimbabwe, des anciens combattants de la guerre d'indépendance et fervents soutiens du président Robert Mugabe dans le passé retirent leur confiance à l'homme Fordo Harare. Pour la présidentielle de 2018, ils ont décidé de choisir des candidats compétents, même issus de l'opposition.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le Maghreb, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak est sorti aujourd'hui de prison après 6 ans d'incarcération. Il a régné un maître absolu de l'Égypte durant 3 décennies avant de tomber en 2011. Il avait été condamné à la prison à vie pour complicité de meurtre de centaines de manifestants lors de la révolte populaire, le printemps arabe. Le point avec Salwa Jafari.
Hosni Moubarak, fils de l'armée, scandait un groupe de supporters à sa sortie de l'hôpital militaire de Ma'adi, où il a passé le plus clair de ses années de captivité. 88 ans, l'ex-raïs a pris la direction du quartier d'Héliopolis dans la banlieue du Caire, où il possède une résidence. La cour de cassation l'avait définitivement acquitté au début du mois des accusations d'implication dans le meurtre de manifestants durant la révolte de 2011. Quelques 850 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police. Moubarak, après 30 ans de règne sans partage, a été emporté dans le tumulte du printemps arabe le 11 février 2011. Il a été condamné à la prison à vie en juin 2012. Mais la justice avait ordonné un nouveau procès. En novembre 2014, un autre tribunal a finalement abandonné les poursuites, blanchissant ainsi Moubarak. Mais le parquet avait introduit un recours en cassation.
Signalons, Saloua, qu'un homme a été tué aujourd'hui au Caire dans une explosion provoquée par un étrange appareil métallique. La Cour d'appel de Tripoli a suspendu l'accord entre la Libye et l'Italie sur l'immigration en attendant de statuer sur le sujet. Le chef du Jena, Fayez al-Sarraj, a signé à Rome le 2 février avec son homologue italien Paolo Gentiloni un mémorandum d'accord visant à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine depuis la Libye, pays d'Afrique du Nord, d'où partent chaque année des milliers de migrants vers l'Italie. Au moins 11 personnes sont mortes noyées aujourd'hui après le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Turquie. Il se dirigeait vraisemblablement vers l'île grecque de Samos, mais leurs nationalités n'ont pas été précisées. Les corps de 11 personnes ont été retrouvés échoués sur le rivage. 8 personnes ont été secourues et 3 sont toujours portées disparues. Et le pèlerinage annuel juif de la Griba sur l'île de Djerba, dans le sud de la Tunisie, aura lieu les 12 et 14 mai. Et cet événement est organisé chaque année au 33e jour de la Pâque juive. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Votre moment de suivre l'actualité économique en Afrique, la chronique de la Muniteco signée Jacques Aristide.
Le déficit commercial du Burundi a diminué de 10,4% l'année dernière par rapport à 2015, en partie grâce à la baisse des importations de carburant et de matériels électriques. C'est la banque centrale du pays qui le dit. Le Burundi, dont l'économie repose sur les exportations de café et de thé, souffre d'un déficit commercial chronique, une instabilité économique exacerbée par la réduction de l'aide internationale en raison de la crise déclenchée par le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Une première au Kenya, le pays a émis aujourd'hui un emprunt obligataire par le truchement, tenez-vous bien, du téléphone portable. La banque centrale veut ainsi mettre les titres du trésor à la portée d'un plus grand nombre de Kenyans, dont 23 millions possèdent un smartphone. Pour ce lancement, le gouvernement projette de lever 150 millions de shillings pour aider à financer des projets publics. De vastes chantiers en perspective au Nigeria. Le gouvernement vient d'approuver des projets d'infrastructure à travers le pays à hauteur de 256 millions de dollars. Il s'agit notamment de projets routiers, ferroviaires et énergétiques.
Sans transition, l'on enchaîne avec les sports. Nicolas Pinon, aujourd'hui. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
En football, il y a une série de matchs amicaux en Afrique, Nico.
Et oui, 6 équipes qui disputent le tour préliminaire des éliminatoires pour la CAN 2019 et d'autres qui préparent la phase de groupe qui débutera en juin, ainsi que la suite des qualifications pour le Mondial 2018. Hier, le Kenya et l'Ouganda ont fait match nul 1 but partout. Le Sénégal a été contraint au match nul 1 but partout lors d'un match amical joué à Londres. Le but sénégalais a été inscrit par Moussa Sow. Le Nigeria a égalisé sur pénalty grâce à Iheanacho à la 83e minute de jeu. À suivre ce vendredi, Libitogo à Alexandrie en Égypte, les éléphants de Côte d'Ivoire en déplacement à Krasnodar en Russie, Mauritanie-Bénin à Nouakchott, Tunisie-Cameroun à Monastir, Maroc-Burkina Faso à Marrakech et Guinée-Gabon au Havre. À suivre demain, l'Afrique du Sud contre la Guinée-Bissau à Durban et à Maputo, le duel lusophone entre le Mozambique et l'Angola. Dimanche, Kenya-RDC et Zimbabwe-Zambie.
Alors, l'on traverse l'Atlantique pour aller en Amérique du Sud, Nico. Ce match de feu la nuit dernière entre le Brésil et l'Uruguay.
Et le Brésil qui a fait un grand pas vers la qualification pour ce Mondial 2018 avec une démonstration, victoire 4-1 face à l'Uruguay. Depuis la nomination de Tite au poste de sélectionneur en juin 2016, la Seleção est sans rival. Elle a signé hier au stade du centenaire de Montevideo sa 7e victoire consécutive du jamais vu dans sa glorieuse histoire dans les éliminatoires sud-américains. L'Argentine est l'autre grand bénéficiaire de cette 13e journée. Elle n'a pourtant pas fait forte impression contre le Chili, mais Lionel Messi a assuré les avec un pénalty dès la 16e minute de jeu.
Le président de la FIFA salue l'élection d'Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football.
Gianni Infantino a assuré que l'élection du Malgache Ahmad à la présidence de la CAF symbolisait un vote de changement après près de 30 ans de règne du Camerounais Issa Hayatou. L'Afrique n'est pas un continent facile à diriger en ce qui concerne le football, mais les Africains ont une grande passion pour ce sport et ont souhaité un nouveau leader à une majorité significative, a poursuivi le patron de la plus haute instance du foot mondial, qui a cependant reconnu que des progrès ont été faits au cours des mandats d'Issa Hayatou.
Enfin Nicolas, NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, les San Antonio Spurs ont aligné une 3e victoire consécutive en battant Memphis 97-90 dans la course aux playoffs qui s'annonce indécise jusqu'au bout. Miami a connu un coup d'arrêt avec une nette défaite à domicile face à Toronto 84-101. De son côté, Dallas a arraché la victoire face aux Clippers 97-95.
Voilà, c'est tout pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manila-Kidza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique, pour aborder les dossiers de ce soir. La première destination, c'est Lomé, où le Togo, dans son processus de réconciliation, ce pays a lancé aujourd'hui à Lomé la phase de réparation des victimes des violences à caractère politique et des violences des droits de l'homme dans le pays entre 1958 et 2005. Le reportage à Lomé est signé Kai Lawson.
De toutes les violences à caractère politique qui ont émaillé l'histoire du Togo de 1958 à 2005, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR a recensé 22 415 victimes, dont 7 075, soit 31,56% pour la seule année de 2005. Les souvenirs demeurent encore vivaces. Cette victime, qui réside à Tapamé, à 157 km au nord de Lomé, a perdu lors de la période électorale de 2003 sa femme et ses deux enfants. Il se dit prêt à pardonner, mais pas à oublier. Témoignage.
Nous étions à la maison autour de 23 heures quand une Jeep atterrit et des gens habillés étaient sortis, habillés comme des militaires, mais à visage couvert. Ils ont violé ma femme. J'ai voulu réagir. Mes enfants aussi, bon, ils les ont tués. Moi-même, bon, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans la fosse. J'ai perdu ma femme et mes deux enfants. Je peux pardonner, mais ce séquel-là, c'est difficile à oublier.
Pour panser les blessures et mettre en route un processus de réconciliation durable, le Haut Commissariat à la Réconciliation et Renforcement de l'Unité Nationale HCRUN va procéder aux réparations des victimes. La première phase de ces réparations ne concernera que 2465 victimes de 2005 pour une enveloppe de 2 milliards de francs CFA. Awanana Daboya, présidente du HCRUN.
Il y a des montants de préjudice qui n'atteignent pas 1 million. Donc ça va de 200 jusqu'à 800 et quelques mille. Donc ces victimes-là, nous les prenons en compte. C'est uniquement ceux-là. Mais surtout, il y a les 126 qui attendent, qui ont besoin d'aller à l'hôpital, d'être pris en charge, qui ont besoin de prothèses. Il y a parmi eux des enfants de victimes qui attendent, qui ont eu leur scolarité arrêtée.
L'occasion est belle pour le gouvernement de réaffirmer son engagement pour la réconciliation au Togo. Comme Isselom Klassou, premier ministre togolais.
Le gouvernement a fait du programme de réparation un impératif.
Pour ces citoyens togolais, il faut aller au-delà des discours réconciliateurs et des réparations. Ils estiment que des actes, même symboliques, sont indispensables.
La réparation ne se limite pas aux compensations financières ou matérielles. La réparation, c'est aussi l'engagement des autorités publiques de faire en sorte que la sécurité des uns et des autres soit désormais garantie.
La réparation est un passage obligé pour le Togo. Kai Lawson, Lomé, VOA Afrique.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voix de l'Amérique.
Les forces maritimes de 31 pays du Golfe de Guinée, d'Europe, d'Amérique du Sud et des États-Unis ont commencé hier des manœuvres maritimes dans le Golfe de Guinée. Selon l'ambassade américaine en Côte d'Ivoire, c'est notamment pour lutter contre la piraterie. Tatiana Mousseau a joint à propos Barthélémy Blédé, directeur à l'Institut d'études de sécurité à Abidjan.
L'opération Obagame Express, son but, c'est d'aider les pays africains à sécuriser leur domaine maritime contre les incidents de sécurité, notamment la piraterie, la pêche illégale.
Mais quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette piraterie?
Même si on vient de connaître un cas de piraterie dans le golfe d'Aden, du moins depuis 2012, on n'avait pas connu d'attaque là-bas. Et il y a pas longtemps, il y a eu une attaque réelle en Somalie. Mais effectivement, le golfe de Guinée est beaucoup plus en avance négativement, bien sûr, par rapport à la piraterie. Et les aspects négatifs, effectivement, ça joue sur l'économie. Parce que des ports où il y a les pirates, les navires n'y vont pas. Ou bien si les navires y partent, les frais, c'est-à-dire le coût du transport augmente parce que les assurances augmentent. Et donc, c'est vraiment négatif. Il n'y a pas que la piraterie, il y a la pêche illégale et les autres trafics qui se font en mer, puisque les zones ne sont pas gardées.
Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques, les gouvernements africains concernés dans cette zone géographique sont pleinement conscients? Est-ce qu'ils ont les moyens de doter notamment la défense et les éléments compétents de ce qu'il faudrait techniquement pour pouvoir faire face?
Bon, une chose est d'être conscient, une autre est d'avoir les moyens pour qu'effectivement le travail soit fait pour que ces pirates et autres bandits en mer puissent être repoussés ou même que ce fléau soit totalement éradiqué. Bon, ça commence à aller. Par exemple, en Côte d'Ivoire où je suis, il y a quelques patrouilleurs maintenant. C'est ce matin même au centre du Bagamé Express et je me suis rendu compte que la Côte d'Ivoire a mis à la disposition de l'opération cet engin naval, ce qui est important et chaque pays essaie de faire des efforts. Il y a cette coopération qu'on commence à voir, notamment au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Afrique centrale également, avec 5 zones. Les pays ont établi 5 zones et ces 5 zones essayent de travailler ensemble. Mais il faut dire que les choses ne vont pas si vite, aussi vite que on devait le penser, aussi vite qu'on devait le souhaiter, étant donné que le fléau, lui, l'avance. Donc, oui, je pense qu'il y a de la volonté, mais les choses vont quand même assez lentement.
Barthélémy Blédé, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Des associations béninoises et françaises ont initié le débat sur la restitution d'œuvres d'art inestimables subtilisées pendant la colonisation du royaume de Dahomey. Ces associations ont lancé une pétition accompagnée d'une lettre ouverte au président Hollande pour appuyer le Bénin. Pour plus d'explications, Anastasie Tudiech a joint Louis-Georges Etine, membre du CRAN, le conseil représentatif des associations noires.
Depuis 3 ans, le CRAN travaille sur cette question de la restitution. Nous avons été suivis, heureusement, par le président Talon, le président du Bénin, qui a fait une demande officielle de restitution. Or, ne voilà-t-il pas que la France refuse officiellement, ou plutôt le Quai d'Orsay dit non à cette restitution, raison pour laquelle nous avons essayé de mobiliser des personnalités de France et du Bénin pour protester contre cette décision inique. Nous disons qu'on ne peut pas fonder le dialogue interculturel sur le pillage interculturel.
Si la demande d'un président, tout ce qu'il y a de plus officiel, n'a pas abouti, qu'est-ce qui vous fait penser que celle d'une pétition donnera plus de fruits?
Nous pensons que, étant sur place en France, nous avons des relais que le gouvernement béninois ne veut pas tout à fait avoir étant là où il est. Nous sommes complémentaires. Le Bénin a plus de pouvoir et plus de légitimité, mais nous avons peut-être en France plus de réseaux. Nous connaissons bien les députés, nous connaissons le droit français et nous sommes complémentaires, nous travaillons ensemble.
Est-ce qu'il existe au Bénin des lieux pour accueillir ces objets?
Oui, il y a des lieux qui existent et d'autres qui sont en construction. Le président Talon a fait construire, il est en train de faire construire un musée du Vaudou et une aile de ce bâtiment est prévue pour la restitution des trésors royaux dont nous parlons. Par ailleurs, la Fondation Zinsou est également disposée à financer la restauration du musée d'Abomey. Donc les lieux sont là et nous disons qu'on ne peut pas aujourd'hui priver les Africains de leur patrimoine naturel. Aminata Traoré, la ministre de la Culture du Mali, disait elle-même que 95% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique et en dehors de l'Afrique, au British Museum, à Tervuren en Belgique, en France, au musée du Quai Branly. C'est évidemment inacceptable. Comme M. Sarkozy disait, l'homme africain n'allait pas entrer dans l'histoire, il aurait dû dire on a volé l'histoire de l'homme africain. C'est plutôt ça la réalité. Donc si aujourd'hui on veut que les Africains et les enfants, les jeunes, puissent connaître leur passé, leur histoire, leur patrimoine, il faut bien qu'ils les aient sous la main. On ne peut pas leur demander à tous de partir, prendre l'avion, demander un visa pour aller payer quelque chose de Quai Branly. En fait, c'est du vol. C'est du vol colonial, et je pense que M. Hollande ne peut pas décemment partir comme un voleur. On veut réussir sous François Hollande, et si on échoue, on continuera, ça c'est certain. Je pense d'ailleurs qu'on gagnera, la question c'est quand, et le plus tôt et le mieux.
Louis-Georges Étain, membre du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de l'épidémie de paludisme au Burundi.
Depuis le début de l'année, près de 2 millions de personnes ont été infectées et environ 700 personnes ont déjà perdu la vie selon les autorités sanitaires.
Pour nous aider à comprendre les raisons de ce désastre sanitaire, nous recevrons comme invité M. Mbonerane Albert. Il est président de l'association Action de lutte contre la malaria au Burundi.
Nous écouterons le témoignage du Dr Dionys Nizigiyimana, directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme au ministère burundais de la Santé. Il nous dira ce qui est fait pour combattre l'épidémie.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, les dimanches et les mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en a fait une priorité. Près de 2 millions de cas sont répertoriés annuellement. Pour un éclairage sur cette maladie en Afrique, Nathalie Barge a joint à Abidjan le docteur Tano Sidiki.
La tuberculose est considérée comme une maladie d'hygiène. Quand vous manquez d'hygiène et que vous êtes dans un milieu où il y a des tuberculeux, vous prenez facilement la tuberculose. Alors pour l'éviter, c'est d'isoler les gens qui sont porteurs. Ou bien quand on doit être à côté d'eux, obligatoirement, il faut que ces personnes se protègent lorsqu'elles toussent et qu'elles évitent de cracher dans tous les sens.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de cas de tuberculose en Côte d'Ivoire ?
Ah oui, avec l'avènement de la maladie VIH, il y a une flambée en ce qui concerne la tuberculose. Quand quelqu'un est porteur du virus du sida, et il est faible sur le plan immunitaire, donc facilement, il attrape cette maladie.
Alors, il y a une forte prévalence en Afrique du Sud et au Nigeria. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Je pense qu'en Afrique du Sud, il y a une très forte prévalence du VIH. Donc, quand les gens sont immunodéprimés, facilement, ils font le lit de la tuberculose.
Et docteur, comment éradiquer la tuberculose ?
Véritable problème de santé publique. Il faut que l'État prenne à bras le corps le problème de la tuberculose, qu'il fasse beaucoup de campagnes de prévention. Le BCG qui se donnait à tous les enfants à l'époque, il faut le rendre obligatoire celui-là. Et il faut faire de l'éducation sanitaire. Et ensuite, les malades qui sont touchés, il faut réellement les prendre en charge aussi. Bon, ça, je sais qu'en Côte d'Ivoire, on le fait très bien. Les malades sont soignés gratuitement. Mais ce qu'il faut craindre aujourd'hui à la tuberculose, c'est l'apparition des formes résistantes. Ça commence à venir. Est-ce que c'est dû au fait que les malades sont insuffisamment soignés ? Est-ce que c'est le bacille qui a muté pour devenir plus complexe ? Est-ce que c'est les médicaments qui sont devenus légers ? Je ne saurais vous le dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de résistance au niveau de la tuberculose de plus en plus. Et quand ces cas apparaissent, il n'y a pas beaucoup d'États qui arrivent à faire face à ces formes résistantes.
Le docteur Tano Sidiki à Abidjan.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, une chanson de carnaval pour vous secouer. Vous rappelez que c'est le début d'un week-end. C'est pour agrémenter votre week-end. Merci à Michel Joseph qui assure la mise en onde, à la console Nick Ivanov, à la présentation Eric Manirakidza. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités 24 heures sur 24 heures. Au revoir et bon week-end.